C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
L'art et la politique. L'attrait des personnes de pouvoir pour les œuvres d'art est une vérité générale dans l'histoire, l'histoire avec un grand I. On peut citer mille exemples, les rois français, leurs tableaux et la place privilégiée qu'ils donnent aux artistes, tels que Léonard de Vinci ou Molière, plus proche de nous, le pillage des œuvres d'art par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, l'art joue une place prépondérante en politique, qu'il s'agisse de soft power à l'échelle macro ou bien de petits détails servant à flatter l'ego et caresser dans le sens du poil un ou une adversaire politique. Une pièce d'art étonnante, le tapis persan d'Angela Merkel, a voyagé partout en Europe ces dernières années, mais il fallait attendre voir la chancelière prendre sa retraite pour traiter cela sous le prisme de l'histoire, l'histoire avec un grand I. C'est maintenant chose faite et nos meilleurs historiens peuvent se pencher sur le sujet. Bonjour Thierry Lafleur.
Bonjour Guillaume.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Bonjour Alexandre Robelin.
Bonjour à vous.
Bonjour Julien Marel, comment allez-vous ?
Bonjour Guillaume, bonjour Thierry, bonjour Alexandre.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Thierry Lafleur, première question pour vous. Quel rapport entretenait Angela Merkel avec ce tapis persan ?
Un rapport très très fort, très fusionnel et oui, vous avez raison, c'est vrai que maintenant qu'Angela Merkel n'est plus en politique, on va pouvoir traiter ce sujet, un sujet qu'on attend depuis longtemps de traiter ici dans cette émission, puisque ce tapis est aussi vieux finalement qu'Angela Merkel, c'est-à-dire qu'elle l'a eu à sa naissance. Voilà, elle est née dessus.
Elle est née sur ce tapis persan.
Elle est née sur ce tapis persan et le tapis ne l'a jamais quitté.
Voilà. Ah oui, c'est en effet pas commun de naître sur un tapis persan.
Le tapis existait avant, bien sûr, mais voilà, enfin, il a toujours appartenu à Angela Merkel depuis sa naissance.
Ok, intéressant. Julien Marel, c'est vrai que naître sur un tapis persan comme ça, c'est pas quelque chose qu'on connaît, surtout pas en Allemagne en plus.
Non. Mais alors, en fait, l'appartenance de ce tapis persan à Angela Merkel est due à une loi très particulière en Allemagne, qui est, on connaît le droit du sol, on connaît le droit du sang, et il y a le droit de l'accouchement, qui est que lorsqu'une personne naît sur un objet, lorsqu'une femme accouche sur un objet, l'enfant a la propriété de cet objet par défaut. Donc c'est une loi en Allemagne.
Voilà, plus communément appelée, depuis Angela Merkel, la loi du tapis.
La loi du tapis.
La loi du tapis.
Voilà. Loi du tapis.
Et donc la mère d'Angela Merkel, Christina Merkel, a accouché subitement lorsqu'elle était dans un magasin de tapis. Et voilà comment le tapis est arrivé en possession d'Angela Merkel.
Et bah, du coup, on est tous en attente de savoir quelle était la propriété là, de ce tapis persan qui est passé à Angela Merkel.
Alors comme j'ai dit, il était dans un magasin. Mais son histoire peut être retracée et a été un petit peu retracée à travers les âges. Il n'a appartenu pas à grand monde de notables, si ce n'est à Charles de Gaulle.
Quand même.
Ouais, il a appartenu quelques années à Charles de Gaulle avant qu'il le revende lors d'un troquet-puce.
Très bien. Et certains parlent justement de ce tapis comme étant en fait l'élément déclencheur de la carrière de la chancelière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Monsieur Robelin ?
Oui, bien sûr. C'est l'élément déclencheur de la carrière d'Angela Merkel, on le suppose en tout cas, parce que on fait un lien direct entre le comment dire ce qu'il y a sur le tapis et le contenu de la carrière d'Angela Merkel. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez que Angela Merkel, un de ses grands chevals de bataille, c'était notamment le fait de construire des ponts.
Beaucoup de ponts.
Beaucoup
oui.
de
Énormément
ponts.
De ponts. L'Allemagne
Énormément
est le pays
de ponts.
Qui a le plus de ponts en Europe.
Voilà. Et justement, on voit un magnifique pont sur le tapis persan d'Angela Merkel qui prend énormément de place. Et ça prend énormément de place aussi dans son programme politique. On note aussi le fait qu'il y a énormément d'hippopotames sur le tapis persan. Et la réintroduction de l'hippopotame en Allemagne est un des chevals de bataille, je le répète, d'Angela Merkel.
L'Allemagne est le pays qui a le plus d'hippopotames en Europe.
Plus d'hippopotames et de ponts, effectivement. Donc on pense vraiment que Angela Merkel a presque une sorte, c'est presque vu attribuer, selon elle en tout cas, une sorte de mission vis-à-vis de ce tapis, de réalisation de ce tapis vis-à-vis de l'Allemagne. Elle projette cette enfance qu'elle a eue avec ce tapis, dans sa politique, voire même elle a fait de la politique pour pouvoir apporter à l'Allemagne ce qu'elle a eu dans son enfance grâce à ce tapis.
Ok, et c'est vrai que bon, ce tapis, on se doute qu'Angela Merkel était très proche, on était enfant, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle l'emmenait partout, même une fois chancelière, il y avait quelqu'un qui l'accompagnait toujours avec le tapis dans la main.
Oui, alors ça, c'est... il y a une raison particulière à ça, c'est... qui est un peu moins connue, c'est que en fait, le tapis est légalement l'époux d'Angela Merkel depuis 2006. Ils se sont mariés à la mairie de Berlin. Et voilà, donc depuis cette date-là, ils sont légalement époux. Donc c'est pour ça que le tapis le suivait également pendant ses déplacements.
Oui, comme en fait n'importe quel couple présidentiel ou de premier ministre.
Et ce qui a posé beaucoup de problèmes d'ailleurs, c'est pour ça que c'était très très peu médiatisé. Comme vous le savez, en général, les époux ou épouses de chefs d'État souvent sont très médiatisés. Là, pour ce qui est du tapis persan, c'était beaucoup plus... C'était un peu voilà, sous le tapis, si j'ose dire. C'était vraiment, on essayait de pas trop en parler. Et notamment, on se souvient de Melania Trump qui était censée dîner avec le tapis et qui a refusé. Et vraiment.
Beaucoup de problèmes.
Ouais, ça posait beaucoup de problèmes.
Beaucoup de problèmes. On se souvient aussi notamment de la photo du G7, la photo de 1992. Il y a vraiment deux photos de fait à chaque fois au G7. Il y a la photo des chefs d'État et de leurs partenaires. Et ce qui a posé problème, c'est que le porteur du tapis est venu dépositionner le tapis pour la photo et tout le monde est venu s'essuyer les pieds dessus. Là, on voit sur la photo très clairement les six partenaires des chefs d'État qui sont sur le tapis d'Angela Merkel, et ça pose énormément de problèmes.
Énorme incident diplomatique.
Angela Merkel n'est pas venue au G7 de l'année d'après. Elle est restée à Berlin.
Mais alors, effectivement, ça a posé beaucoup de problèmes diplomatiques, mais ça a également permis de résoudre des conflits. Parce que le tapis, n'étant pas doué de parole, est vraiment un adversaire difficile à contrer. Et on se souvient très bien d'Angela Merkel qui voulait intimider un prince saoudien, qu'il a invité à dîner. Et la présence du tapis à table, et le fait que le tapis n'ait pas lâché un seul mot pendant tout le repas...
Il n'a rien dit.
A tapé sur les nerfs du prince saoudien, qui a finalement abdiqué sa position, et a décidé de rendre de poser les armes, d'annuler le conflit qui était en cours.
D'ailleurs, c'est de là que vient la célèbre expression, c'est pas plus qu'une expression, c'est une façon de... C'est du jargon au poker, faire tapis. C'est au moment où il n'y a même plus besoin de mots, on met tous ses jetons en mise sur la table et
tout est dit,
il n'y a plus besoin de parler, donc on fait tapis.
Le tapis est vraiment la plus grande force et la plus grande faiblesse, à l'instar du poker. Hein. Le line, c'est tout ce qu'on a, c'est la plus grande force et la plus grande faiblesse d'Angela Merkel.
Très intéressant, du coup, ce tapis. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça, d'objets ou de choses qui ont accompagné des dirigeants européens ou autres, qui ont eu la même influence que ce tapis persan ?
Il y en a qui ont essayé. Ce que je peux vous dire, c'est que... alors là, je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Je sais que vous allez me parler de la Suède. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que d'autres ont essayé, finalement, de voler ça à Angela Merkel, c'est-à-dire que Angela Merkel, c'était la première vraiment à avoir cet objet-là qui l'accompagnait, qui l'aidait à prendre des décisions et à être finalement une chef d'État inflexible. D'autres ont essayé, mais jamais égalé, ça n'a jamais fonctionné comme ça a fonctionné avec Angela Merkel, tout simplement parce que ça lui appartient. Voilà.
Après voilà,
on va parler de la Suède.
On va parler de la Suède.
Oui, non, mais je sais bien.
Il y a effectivement la présidente de la Suède entre 92 et 2002 qui a été mariée à une commode. Bon.
Pure imitation.
Alors.
D'enfilade scandinave plutôt qu'une. D'enfilade scandinave, c'est plus qu'une commode.
Oui, c'est une très belle enfilade scandinave, mais bon voilà, les détraqueurs l'appellent commode. Bon, y a-t-il eu imitation ? Là, c'est un sujet épineux, parce que y a-t-il eu imitation ? La présidente de la Suède était mariée à son enfilade scandinave avant qu'Angela Merkel soit mariée à son tapis en 2006. Mais d'aucuns disent que c'est parce que les lois de la Suède étaient plus flexibles à ce sujet et donc permettaient d'épouser un objet avant que l'Allemagne autorise cette chose. Y a-t-il une limitation ? Ce n'est pas ma place de le dire. Je ne pense pas. Mais je pense que ça, effectivement, cette enfilade scandinave a eu moins d'impact sur l'histoire de la Suède que n'a eu le tapis d'Angela Merkel sur l'histoire de l'Allemagne.
Oui, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on doit faire une émission d'histoire, une émission vraiment où on parle des conséquences géopolitiques sur le monde, l'enfilade scandinave de la présidente de la Suède n'a eu vraiment pas tant que ça d'effet, si ce n'est de faire couler de l'encre dans la presse à scandale. Voilà.
Ouais, bah, il faut dire aussi que c'est un objet beaucoup plus volumineux, du coup beaucoup plus difficile à emmener avec soi dans un dîner, déjà, à faire manger avec un
au G7 également.
Elle n'a participé qu'une fois au G7. Hein.
Voilà. Okay. Parce qu'elle pesait, c'est ça, je crois que c'était 2 tonnes et demie, cette enfilade.
Oui, 2 tonnes et demie. Elle faisait 7 mètres sur 12, donc c'était vraiment un objet très très volumineux.
Ok, très bien. Donc, pour revenir sur ce tapis persan d'Angela Merkel, sur lequel elle est née, quel a été du coup le rapport d'Angela Merkel avec l'histoire du monde persan? Ce qui est marrant, c'est que on est sur un tapis persan comme ça, mais a priori, il n'y a pas eu non plus une histoire très forte d'Angela Merkel avec cette dimension-là.
Non, elle ne s'est pas tant que ça rapprochée finalement du monde persan. Elle aurait dû peut-être, ça lui aurait permis de peut-être mieux interpréter certains des signes que lui donnait le tapis. En effet, ça lui est beaucoup reproché dans sa politique, réintroduire l'hippopotame en Allemagne parce qu'il y avait des hippopotames sur le tapis. Derrière, il y a ceux qui font des tapis, il faut savoir que voilà, c'est avant tout de l'art, comme vous l'avez dit en ce début d'émission. C'est de l'art, et quand on fait de l'art, on fait passer un message. Quand on dessine, quand on brode un hippopotame, ce n'est pas littéralement parce qu'on veut plus d'hippopotames. Voilà. Et Angela Merkel, je pense qu'elle... Voilà, elle aurait dû peut-être un peu plus s'intéresser, un peu plus se rapprocher du monde persan.
Et Charles de Gaulle, d'ailleurs, l'avait bien compris. Lui, qui était également très attaché à ce tapis, a construit des ponts, mais à aucun moment n'a tenté de réintroduire l'hippopotame en France. Et je pense que c'est de la sagesse de ce chef d'État dont Angela Merkel aurait peut-être dû s'inspirer.
Mais c'est vrai que c'est tout l'enjeu de la présence de l'art dans le monde politique, c'est quelle interprétation on en fait, comment est-ce qu'on l'utilise. Là, Angela Merkel avait une interprétation très littérale de ce tapis avec ce qui avait marqué dessus, et on voit que ça n'a pas donné du tout les mêmes actions que Charles de Gaulle. Est-ce qu'on peut, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui n'ont jamais vu ce tapis en photo, ou même qui ont eu la chance peut-être de le voir en vrai, ce tapis d'Angela Merkel, est-ce qu'on peut le décrire un peu plus en détail? Vous avez parlé de pont, Alexandre Rebelin, vous avez parlé d'hippopotame. Voilà. Quels autres signes significatifs on voit sur ce tapis?
Alors, bien sûr. Fermez les yeux et imaginez un grand tapis de à peu près 3 mètres sur 6. C'est vraiment un très grand tapis. 3 mètres sur 6. Il faut le regarder comme un tableau. Il est pris en format paysage. Donc, 6 mètres de largeur et 3 mètres de hauteur. On y voit un magnifique pont qui part de gauche à droite, hein, et qui sort du champ du tapis, et une procession d'hippopotames donc, qui traverse ce pont. L'eau coule en dessous du pont, et on aperçoit au loin un village qu'on ne sait pas encore identifier aujourd'hui.
Il y a eu des hypothèses. Le village de Mahalar en...
Pense peut-être au village de Mahalar. Effectivement, c'est une zone qui est peuplée d'hippopotames, mais un pont si grand, c'est compliqué de se l'imaginer là-bas. D'autant plus que c'est une zone sèche, il n'y a pas de fleuve à côté de Mahalar. Il est à noter aussi qu'on y voit des canards dans l'eau.
Ah oui, alors...
On y voit des canards.
On y reviendra tout à l'heure aux canards, parce que c'est en effet... c'est au sein vraiment des canards où il y a la seule et unique tache, voilà, sur le tapis. Mais désolé, Monsieur Roblin, continuez la description, mais je pense qu'on reviendra à cette tache.
Oui,
tout
la
à
tache
l'heure.
Du canard,
elle est importante.
Il y a une tache. Bon, il y a une tache. Non, mais je pense que c'est important quand même qu'on reste sur cette tache. Ça reste un des éléments quand même central du.
Je vous laisse finir la description du tapis.
Oui, bien sûr. On y voit donc des canards dans l'eau, une tête d'humain. Qui sort de l'eau, qu'on confond d'ailleurs au premier aperçu avec un canard.
Parce qu'il a un tuba.
Parce qu'il a un tuba, c'est ça. Les canards se suivent en procession aussi, comme les hippopotames, mais dans l'eau. On voit la maman canard et les petits canetons qui la suivent. Mais parmi les canetons, une tête avec un tuba qui a l'air de suivre la procession des canetons et qui se place au milieu.
Intéressant. Et du coup, quelle est la signification? Désolé, je vous coupe parce que c'est vraiment très tentant. C'est pas commun de voir comme ça une représentation de petits canetons qui suivent leur mère, accompagnés d'une tête d'humain et un tuba.
On y voit la symbolique de remettre la place ou de l'homme en tout cas qui cherche à comprendre son environnement.
Sa place dans la nature.
Qui cherche à comprendre comment vivent les canards et qui cherche à s'immerger parmi leur mode de vie. C'est un appel à ça. D'ailleurs,
c'est d'ailleurs ce qu'aurait dû faire et ce qu'a fait un peu Angela Merkel avec sa politique en Allemagne sur l'écologie. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, à force d'interprétation trop littérale, on se souvient tous de ces titres qui font aujourd'hui la honte de l'Allemagne avec cette photo d'Angela Merkel nue avec un tuba sur la plage, qui n'avait prévenu personne. Hein, et du coup, les photos ont été prises comme ça à la volée. C'est ridicule. Il y avait d'autres choses à faire, en termes d'écologie en tout cas.
Ça, c'est... est-ce que c'est de la politique? Est-ce que c'est de l'art? On ne sait pas trop où placer le curseur avec Angela Merkel.
Moi, j'y vois une performance après. Voilà. Je comprends les deux trackers.
Angela Merkel en tuba. On va s'arrêter là d'ici pour passer le premier morceau. San Francisco Starlink Persian Rug. Donc, si je traduis en français avec mon accent anglais magnifique, le tapis persan, tout de suite sur Prune. San Francisco Starlight Orchestra avec Persian Rug, enregistré en 1995, mais c'est une reprise de The Mac Alpiners, On My Persian Rug, I Can Stay Far Away Into the Land of My Dreams. C'était aussi le mantra d'Angela Merkel. Thierry Lafleur, vous parliez juste avant qu'on fasse une petite pause musicale de cette fameuse tâche, l'unique tâche du tapis qui est au milieu des canards. Pourquoi cette tâche?
Pourquoi cette tâche? C'est la question que tout le monde se pose, Guillaume. C'est la question que tout le monde se pose encore aujourd'hui, que s'est posée Angela Merkel pendant des années, jusqu'à finalement perdre espoir. La tâche est apparue en 2002. Elle est apparue en 2002, un matin, alors qu'Angela Merkel arrivait dans son bureau et la tâche aurait été présente, sans aucune explication. Aujourd'hui encore, personne ne s'est dénoncé. Autant vous dire qu'à l'époque en 2002, tout le staff du bureau d'Angela Merkel avait été limogé tout simplement. Mais aujourd'hui encore, nous n'avons aucune explication et beaucoup quand même de théories pencheraient vers Angela Merkel elle-même, qu'elle aurait taché son tapis sans s'en rendre compte. Mais après, voilà, là, on sort un peu justement de l'histoire, on est plus dans les spéculations.
Moi, j'avais rencontré Angela Merkel à l'époque pour parler de son tapis. Donc, elle m'avait fait venir en ma qualité d'historien pour me demander est-ce que c'était déjà produit dans l'histoire. Je lui ai dit que oui. Le nom de Heimlich Reckner est ressorti à ce moment-là, qui était stagiaire, un stagiaire de troisième au gouvernement à cette époque-là, et qui était chargé d'apporter des cafés dans le bureau de Madame Merkel. C'est pas la première fois qu'un tapis dans l'histoire est taché par une boisson chaude. Ça s'est déjà produit, et notamment chez des chefs d'État. Donc moi, j'ai aiguillé Madame Merkel sur cette piste. Le nom est ressorti dans la presse. Après, il n'y a pas eu de procédure judiciaire, il n'y a rien. Donc la présomption d'innocence se prône. Mais effectivement, il y a d'autres gens qui disent que c'était un coup de Madame Merkel pour placer l'affaire sous le tapis, encore une fois.
Faut savoir qu'à l'époque, ouais, il y avait pas mal de patates chaudes au gouvernement. Enfin, on avait beaucoup de sujets sensibles. Et là, c'est vrai que cette tache de tapis, tout de suite, voilà, ça a fait la une. On ne parlait plus que de ça. Et d'ailleurs, Heimlich Reckner, qui avait été invité sur les plateaux de télévision, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de la potentielle culpabilité de Madame Merkel. C'est que, invité sur les plateaux de télévision, alors est-ce qu'il faisait ça pour faire le buzz ou quoi, avait indiqué avoir apporté un café à Madame Merkel, l'avoir posé sur un guéridon, être ressorti, avoir fermé la porte, et quelques secondes après avoir fermé la porte, il aurait entendu un « Oh,
scheiße !»
Voilà. Et après, voilà, c'est sa parole contre la parole de Madame Merkel.
Effectivement. Ce qui est intéressant, c'est pas tant le qui, mais le pourquoi. Si c'était effectivement Madame Merkel qui avait fait la tâche, pourquoi l'aurait-elle fait ? On pense que, justement, comme disait Thierry, qu'il y avait des patates chaudes au gouvernement à ce moment-là. On pense que Madame Merkel voulait détourner l'attention des Allemands. Les Allemands sont très attachés au tapis persan d'Angela, puisque c'est pour eux le symbole de leur pays. C'est pourquoi il y a autant de ponts, pourquoi il y a autant d'hippopotames chez eux, c'est de là que ça vient. Le fait de tâcher le tapis a potentiellement été une distraction pour le peuple allemand au moment où Angela Merkel voulait faire voter une loi consistant à introduire 1 million de canards en Bavière.
Voilà, et puis alors les canards, c'était vraiment la grosse inconnue du programme de Madame Merkel. Hein,
parce elle que a surpris tout le monde.
C'est l'un des trois grands éléments du tapis qui ne figure pas au centre de son programme. Effectivement, à ce moment-là, elle voulait réussir à introduire le troisième élément dans son pays, les canards, 1 million de canards en Bavière. Bon, c'était très controversé, parce que comme on le sait, un canard, ça cancane. Ça cancane fort. Et 1 million de canards, ça cancane potentiellement 1 million de fois. Mm-hmm. Les habitants de la Bavière étaient déjà excédés par le bruit. Alors la Bavière, c'est une région très bruyante.
Toute petite région. Un million de canards, la Bavière qui fait à peu près 20 km², pas plus.
20 km², et qui est déjà très bruyante, traversée par de nombreux trains. Alors là, ça aurait introduit un bruit féroce en Bavière. 20 km², 1 million de canards, moi, c'était pas urbaniste, mais c'était pas réaliste.
D'autant plus qu'on soupçonne Angela Merkel de vouloir aller au bout de son interprétation du tableau et de nous refaire, enfin, en tout cas, le peuple allemand, je la soupçonnais de vouloir refaire un coup de tuba, hein, de vouloir
tout simplement
mettre autant de volatiles, autant de canards dans un si petit endroit. Pour potentiellement se remettre à nu au milieu des canards dans une zone où on ne la verrait pas faire.
Donc là, finalement, ce n'était pas allé au bout. Hein, comme on le sait aujourd'hui, le million de canards n'a pas été introduit en Bavière. Donc voilà, c'est pour ça que le doute plane finalement. Ce n'est peut-être pas. N'était peut-être pas fait exprès.
Si c'est ça, en tout cas, ça n'a pas marché.
Ou alors, c'est vrai que Angela Merkel, après 4 mandats en tant que chancelière allemande, certains disent qu'elle part en retraite, ce qui est quand même marquant. C'est que depuis qu'elle est partie en soi-disant retraite, personne ne l'a vue. Est-ce qu'elle ne serait pas en train de nous monter un coup avec ses canards ?
Alors, allez-y.
Elle a acheté une propriété il n'y a pas très longtemps en Belgique. dans une région qui est connue pour ses canards. Bon. Après, moi, je suis pas là pour juger de l'attrait de Madame Merkel pour les canards. Si elle et son mari Tapie souhaitent reproduire cette représentation qu'a façonné sa vie, libre à elle.
On ne peut pas le savoir aujourd'hui. La zone est protégée. Il y a des gardes du corps qui surveillent le périmètre de sa maison. Impossible d'y rentrer. Donc on ne sait pas. Ça reste encore, le mystère est encore entier. Que fait Angela Merkel chez elle en ce moment?
Et donc maintenant qu'elle est partie en retraite, on a pu, en tant que chef d'État ou disons compagnon, partenaire de vie du chef d'État, d'objets, son remplaçant n'a pas de tapis, n'a pas de meubles, quoi que ce soit. Et comme par hasard, on voit l'Allemagne qui, en Europe, peine à conserver sa place. Est-ce que en fait, c'était pas ce tapis qui est au final vraiment au contrôle de la politique allemande?
Alors là, on va faire de la politique, on arrête de faire de l'histoire en effet. Moi, je voudrais recentrer quand même un peu sur l'histoire de l'Allemagne. C'est vrai que c'est un pays qui a traversé des périodes compliquées de tout temps. Et finalement, c'est ce tapis qui a apporté un souffle nouveau à l'Allemagne, a apporté une vraie identité, hein, quelque chose vraiment auquel se raccrocher. Et là, je vous parle de l'histoire de l'Allemagne en tant que nation. Maintenant que le tapis n'est plus là, c'est vrai que ça pourrait être compliqué. Mais moi, j'aimerais vraiment poser la question de est-ce que Alexandre, Julien, Guillaume aussi, hein, enfin, vous avez votre avis sur la question, est-ce que vous pensez vraiment que le tapis ne reviendra pas en Allemagne? Angela Merkel, on le sait, n'est pas éternelle. Le tapis, lui, l'est. Voilà, je me pose la question.
On sait que le tapis a des velléités politiques. Il avait par ailleurs été député en Allemagne pendant 4 ans, au début des années 2010. Pour moi, le tapis peut revenir en Allemagne.
Le tapis peut revenir en Allemagne, mais ça voudrait dire que le tapis aurait donc une volonté propre. On attribue pour l'instant à Angela Merkel tout ce qu'elle a fait de son propre chef, on l'attribue à elle-même. Si le tapis se révélait être doué de conscience, ça voudrait dire que Angela Merkel aurait potentiellement été manipulée depuis le début par son tapis.
Alors, si le tapis était doué de conscience, ne dites surtout pas ça devant Madame Merkel, parce que Madame Merkel l'a toujours insisté, elle l'a toujours dit, oui, mon tapis vit.
Le tapis qui vit et qui peut-être reviendra un jour en Allemagne, ce sera le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour étudier ensemble un autre fait historique, un fait historique de l'histoire avec un grand I.
C'était l'histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.